vagabonde.
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 Vagabonde. Nous allons parler de la jeunesse, pas n'importe quelle jeunesse, celle qui fit d'Arthur Rimbaud le poète majeur de la poésie française.
Bonjour à tous.
Bonjour à toi.
Prenons la phrase de Santonio. En littérature, l'acte essentiellement créateur, c'est l'imagination, plus le style, j'en conviens. Mais le style sans imagination, c'est une plante grimpante sans support. Nous pouvons l'appliquer à Arthur Rimbaud, 1853-1891. Il a l'imagination plus le style et il a cessé d'écrire, écoutez bien, à l'âge de 20 ans. Car de 16 à 20 ans, tout adolescent peut être poète. Il se passe tellement de choses dans sa psyché et dans son corps que le monde paraît comme inadapté, étrange, pittoresque, ubuesque. Alors, l'adolescent projette, et se projette. Tel personnage public, musicien, sportif, acteur, joueur, flambeur qui fait le buzz, incarne une forme de libération. Car l'adolescent aspire à se libérer du carcan qui l'oppresse. Nous pourrions disserter des heures sur ce phénomène, mais nous nous arrêterons sur un mot. La vie des autres inspire l'adolescent. Il y a inspiration dès lors qu'une situation paraît bloquée, sans issue, qu'elle semble inapte à offrir du nouveau, du renouveau. C'est l'occasion pour l'esprit de prendre son envol et de proposer à une jeune âme, un jeune corps, des ouvertures, ce qu'on résume sous le nom d'imagination. Rappelons-nous un slogan de 1968, « L'imagination au pouvoir », on l'attend toujours. Avant d'aborder Rimbaud, jetons un œil sur un jeune poète né à Londres en 1795 et mort 26 ans plus tard à Rome, John Keats. Il fait partie des poètes romantiques dont la caractéristique est l'exaltation. Un film, Bright Star, tourné en 2009 par Jane Campion, relate les passions de sa courte existence. Voici les strophes 3 et 4 d'un de ses poèmes les plus célèbres, Ode à un rossignol. Je rappelle, un rossignol est un petit oiseau migrateur repéré par son magnifique chant quand il arrive chez nous.
Ode à un rossignol. Disparaître dans l'espace, me dissoudre, oublier ce qu'au sein du feuillage tu n'as jamais connu, le dégoût, la fièvre et l'agitation, parmi les hommes qui s'écoutent gémir les uns les autres, où le tremblement secoue les vieux aux rares cheveux gris, où la jeunesse devient blême, puis spectrale et meurt, où rien que de pensées remplies de tristesse et sur les paupières pèse un poids de plomb, où la beauté ne peut conserver un jour ses yeux lumineux sans qu'un nouvel amour le lendemain en ternisse l'éclat. M'égarer au loin, car je veux voler vers toi, non pas traîné par les léopards de Bacchus, mais sur les ailes invisibles de la poésie, malgré les obstacles et les retards de la sottise. Déjà je me sens avec toi, tendre est la nuit, et peut-être la lune reine est-elle sur son trône, au milieu de son essaim d'étoiles fées. Mais ici, il n'y a nulle clarté, sauf celle que le ciel souille avec les brises sur les sombres feuillages et la mousse des sentiers sinueux. John Keats dans une traduction de Paul Gallimard.
On trouve dans ce poème, écrit à l'âge de 19 ans, l'idée que le temps file, le vieillissement fait peur, qu'il est temps d'entrer dans cet autre monde où le poète serait à l'abri des infortunes de la condition humaine, pourrait vivre ses expériences comme il l'entend. Maintenant, faisons un saut d'une cinquantaine d'années. Nous sommes en 1871, au mois d'avril. Les Prussiens sont repartis en Prusse. La France doit payer un tribut de guerre énorme suite à la défaite. Le gouvernement provisoire est en place à Versailles sous la conduite de Thiers. Les habitants meurent de faim. C'est la révolte. L'activisme, comme on dit aujourd'hui, comme si c'était un gros mot. L'activisme pousse les gens à agir, à s'organiser. C'est la Commune de Paris. Les Versaillais, sous la conduite de Thiers, assiègent Paris. Rimbaud, qui en est à sa énième fugue, vient s'engager dans la Commune. Rimbaud est un vagabond né. Ni la faim, ni les intempéries, ni les événements ne l'arrêtent. Il se présente aux communards comme « Arthur Rimbaud, poète ardennais ». Mais, écrit-il, « on ne peut rien faire. Paris assiégé ne songe guère à la poésie. On ne pense qu'à manger. Paris n'est plus qu'un estomac. » Il repart en province. Il n'aime pas Paris, il le dira et l'écrira à plusieurs reprises. Mais cette période est féconde pour le poète. Il envoie son dernier poème à Verlaine, qui l'invite en retour. En septembre 71, il va au domicile de Verlaine. Les deux hommes se mettent d'accord. Il lira son poème au cercle des poètes, appelé les Parnassiens. Radio Vassivière.
Vagabonde.
Son poème, c'est à nos yeux le plus illustre de la langue française. Le bateau ivre, 25 strophes de 4 vers de 12 pieds. Le voici dans son intégralité lu par Hélène.
Le bateau ivre. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules démarrées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleur éternel de victimes. D'inuit, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts où, flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend, où teignant tout à coup les bleuités délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermente les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants, je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin, leurs frissons de volée. J'ai rêvé la nuit verte, aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes, et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourris dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, ciel de braise, échouage hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants dévorés des punaises choient des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont hélé par instants. Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Prescrit le ballottant, sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds. Et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles des noyés descendaient dormir à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseaux, moi dont les monitors et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, montée de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte, confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur qui couraient tachées de lunules électriques, planches folles, escortées d'hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Moi qui tremblais, sentant geindre à 50 lieues le rut des béhémots et les maelstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles millions d'oiseaux d'or aux futures vigueurs? Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeur enivrante. Oh, que ma quille éclate, oh, que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle, comme un papillon de mai. Je ne suis plus baigné de vos langueurs, ô lame. Enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Arthur Rimbaud.
Dans ses 100 vers, Rimbaud a mis tout ce que son immense culture avait façonné dans son jeune esprit, tout ce que son enfance lui avait inspiré, tout ce que son imaginaire en ébullition développait. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir, vers impossible à commenter et pourtant si riche de possibles. Oh que ma quille éclate, oh que j'aille à la mer! L'impétuosité de la jeunesse résumée en un seul vers. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash, noire et froide, ou, vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche, un bateau frêle comme un papillon de mai. La nostalgie de l'enfance à l'état pur, si je puis dire. Depuis 1871, de nombreux photographes ont repris cette image dans toutes les métropoles du monde. Vous avez certainement vu ici ou là une photographie avec des immeubles, des enfants, des passants, des passantes, des lumières, des irisations qui se reflètent sur une flaque d'eau en pleine rue, donnant à la ville l'aspect poétique, humain, presque enfantin, que ne peut rendre une photo classique. Revenons à l'adolescent Rimbaud. La suite de sa vie, on la connaît. Il deviendra l'amant de Verlaine, ils partiront ensemble, se disputeront, l'un tirera sur l'autre, et l'autre continuera son errance jusqu'en Abyssinie. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'à 17 ans, maîtrisant le latin et le grec, le français, les textes de l'Antiquité, les textes modernes, les poètes romantiques comme ses contemporains, Baudelaire, Hugo, de Banville, Arthur Rimbaud cherchait des personnes avec qui il pouvait dialoguer d'égal à égal. Georges Isambard, un de ses professeurs, était de ceux-là. Il lui adresse en mai 1871 une lettre qu'on qualifie de lettre aux voyants, qui embue encore l'esprit de tous ceux qui ont un peu d'ambition en littérature. Être génial, ce n'est pas seulement avoir des intuitions, c'est aussi emmagasiner une somme de connaissances et d'émotions à un rythme soutenu et en faire une œuvre, comme Mozart avec la musique. Voici des extraits de la lettre aux voyants. Ça commence ainsi. Voici de la prose sur l'avenir de la poésie.
Car je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archer. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. Radio Vassivière.
Vagabonde. Tel est décrit le phénomène qu'on nomme inspiration. Je est un autre. Il s'opère un dédoublement dans la personnalité qui perçoit les sons et les couleurs d'une autre façon. Dès lors, lancer un coup d'archer, c'est-à-dire amorcer une action, une création, fait travailler la psyché en profondeur et où surgir ce que l'être peut produire de mieux.
La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, la prend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple. En tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs. Il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous les grands malades, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Arthur Rimbaud.
Je m'adresse aux jeunes. Les espaces poétiques sont partout. Dès lors que sonne en soi l'heure de la révolte, les insurrections nées des différentes injustices subies par les peuples qui n'attendaient pas cela de gouvernement démocrate dans une Europe qui affirme vouloir un mieux-être pour tous, ces insurrections créent, comme la Commune de Paris, des espaces de liberté qui facilitent l'éclosion des énergies. C'est ainsi qu'on devient sujet de sa propre existence. Sujet, c'est-à-dire qu'on développe cette volonté de s'incorporer à une vérité dans un processus durable qui donne à la vie son orientation véritable, comme le dit un philosophe dont j'ai oublié le nom. Alors, pour saluer la vitalité de la jeunesse, pour terminer cette vagabonde, un dernier poème d'Arthur Rimbaud mis en musique par Léo Ferré, « Chanson de la plus haute tour ».
Oisive jeunesse a tout asservi par délicatesse. J'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Je me suis dit laisse et qu'on ne te voie, et sans la promesse de plus haute joie, que rien ne t'arrête. Auguste retraite, j'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie craintes et souffrances. Aux cieux sont partis et la soif malsaine obscurcit mes veines. Ainsi la patrie à l'oubli livrée grandit et fleurit, dansant et d'ivraie, au bourdon farouche de cent sales mouches, à mille veuvages de la si pauvre âme qui n'a que l'image de la Notre-Dame. Et ce que l'on prie, la Vierge Marie, oisive jeunesse, a tout asservi par délicatesse. J'ai perdu